Vendredi 25 février 2022, Radio Okapi a totalisé ses 20 ans d'existence créée par l'ONU dans le but de promouvoir la paix et accompagner la MONUSCO dans l'accomplissement de sa mission de pacification de la RDC. Plusieurs acteurs socio-économiques et politiques de la RDC reconnaissent le rôle de Radio Okapi, qualifié de révolutionnaire dans l'espace médiatique congolais d'alors, ainsi que de son important rôle et son impact dans les grands moments de la vie de la RDC. Pensez-vous que le travail de Radio Okapi a impacté et continue d'impacter sur la vie politique et sécuritaire de la RDC? Quelles pourraient être les perspectives pour ce média? Nous en parlons ce soir avec Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Il a été gouverneur de la province du Nord Kivu de 2007 à 2018. Monsieur le ministre, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi et joyeux anniversaire.
Walter Molondi, ancien journaliste de Radio Okapi, avec moi dans ce studio. Walter Molondi, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir monsieur le ministre, bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent.
Et le professeur Pierre Nsana, professeur en journalisme, il est auteur du livre intitulé « Médias et conflits en RDC, des journalistes en danger, le journalisme en chantier » publié aux éditions Armaton. Professeur Pierre Nsana, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir madame et bonsoir aux auditeurs et joyeux anniversaire à vous tous.
Merci. Vous êtes déjà très nombreux auditeurs de Radio Okapi à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Rémi Lokonga à Kisangani dans la province de La Tchopo. L'impact du travail de Radio Okapi sur l'évolution sécuritaire de la RDC, à mon avis, positif. En premier lieu, c'est une radio de proximité, en ce sens qu'elle atteint toutes les couches de la population en donnant des informations réelles sur l'évolution de la situation politique, sécuritaire et économique, où qu'elle soit. En outre, il faut reconnaître que Radio Okapi a contribué à la réunification et au désenclavement de notre pays au moment où ce dernier était divisé. Fikiri Tchomba, à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, somptueux anniversaire à Radio Okapi pour ses 20 ans d'existence. 20 ans n'est pas une mince affaire. Pour moi, l'objectif de la création de cette radio, à savoir la promotion de la paix et l'accompagnement de la MONUC, devenue MONUSCO plus tard, à mon avis, est atteint. Le fait de qualifier Radio Okapi de révolutionnaire n'est pas un fait du hasard. Aujourd'hui, si la balkanisation n'a pas été effective, en grande partie, c'est grâce au savoir-faire de Radio Okapi. La RDC avait plusieurs administrations, d'une part la composante gouvernement à Kinshasa et d'autre part les rébellions. Mais grâce à la magie de Radio Okapi, la RDC a été réunifiée. Il était pratiquement impossible pour nous qui étions sous administration du RCD de connaître ce qui se passait à Kinshasa et vice-versa. À mon avis, la perspective pour ce média reste la pérennisation du travail jusque-là abattu, mais aussi voir un jour une chaîne de télévision, pourquoi pas. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sur la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiokapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le 25 février 2002, lorsque Radio Okapi lance sa toute première diffusion, les négociations politiques s'ouvrent à Sun City, en Afrique du Sud, entre les délégués du président Joseph Kabila, ceux de la rébellion du mouvement de libération du Congo MLC, du Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD et de l'opposition politique non armée. Dans ce premier journal en français, présenté le 25 février 2002 par feu Jérôme Ngongo à 7h du matin, heure de Kinshasa, nous vous proposons d'écouter depuis Sun City le reportage de Micheline Tchouala sur les débuts du dialogue intercongolais dans cet extrait sélectionné par Guy Maté.
Le dialogue intercongolais devrait commencer ce lundi à 14h30 à Sun City, a précisé Georges Ola Davis, chargé de la presse du bureau du facilitateur. Pour l'instant, on ne sait pas qui prendra la parole à l'ouverture. Cependant, Ola Davis a indiqué que certains chefs d'État devraient être présents comme le président sud-africain, celui du Malawi, aussi président à l'exercice de la SADC, celui de la Zambie, le secrétaire général de l'OUA, ainsi qu'un représentant des Nations Unies. Et le maître de la cérémonie sera le facilitateur du dialogue intercongolais Ketumi Remasire, ancien président de Botswana.
Et pendant ce temps, à Badolité, dans l'ancienne province de l'Équateur, la population suivait attentivement ce qui se passait à San City grâce à Radio Okapi. On va écouter les réactions de la population de cette ville de Badolité sur les débuts de ses travaux dans ce reportage de Franklin Molibasese, dans cet extrait sélectionné encore une fois de plus par Guy Maté.
Au démarrage de dialogue intercongolais, Agbado leur est déjà au désespoir. Une femme ce matin au marché nous a dit, je cite, « Le dialogue intercongolais est foutu en l'air, nous sommes tous déçus. » Un administratif a dit dans son bureau, « Jusqu'à la déclaration du président du MLC Jean-Pierre Bemba Fett le mardi dernier à Paris, nous avons été très optimistes quant à la réussite de ce dialogue. L'avenir nous semble maintenant flou. » Au moment où s'ouvre le dialogue intercongolais à San City, le climat est plutôt morose à Badolité. Franklin Molibasi, c'est Radio Okapi, Badolite.
Ce reportage que vous venez de suivre, chers auditeurs des Radio Okapi, c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance de la création de la première diffusion des émissions de Radio Okapi qui coïncidait avec les débuts des travaux du dialogue intercongolais à San City en Afrique du Sud. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, vous avez été gouverneur de la province du Nord Kivu de 2007 à 2018. Pensez-vous, monsieur le ministre, que le travail de Radio Okapi a impacté sur le processus politique en RDC depuis 2002?
Merci beaucoup, madame. Je tiens à rappeler aux auditeurs qu'en 2002, effectivement, le 25 février, lorsque la radio est créée, j'étais administrateur chef de territoire de Lubero, et dans la zone qui était anciennement occupée par le mouvement rebelle. Et donc, la radio Okapi a été cette voix qui a nourri les espoirs de nous tous, les Congolais, qui étions dans ces espaces-là, comme vous l'avez si bien présenté tout à l'heure, et que donc cette radio a aidé à forger une certaine conscience nationale d'appartenance à un même pays, parce que lorsque les gens se retrouvaient les uns à Guadolite, les autres à Kisangani, les autres à Beni, Butembo, les autres à Boma, eh bien c'est la radio Okapi qui faisait en sorte que les gens se sentent encore appartenir à la République démocratique du Congo. Et donc cette radio a permis effectivement, même nous qui étions à l'époque des administrateurs territoire, ensuite maire de Butembo et de Beni, de suivre le déroulement des travaux du dialogue entre Congolais, parce que c'est de ces travaux que tout le monde attendait finalement la fin de la guerre et que les gens se retrouvent et ceux qui étaient dans ces espaces-là reviennent à Kinshasa, que ceux de Kinshasa fréquentent de nouveau. Donc moi je peux dire que la radio a joué un très très grand rôle, étant donné qu'au niveau de mes médias, on peut appeler officiel, il n'était pas possible que l'on fasse une couverture de ces zones anciennement occupées par les rébellions, mais c'est la radio Okapi qui avait un appui substantiel de la logistique des Nations Unies. Eh bien, il était possible, il était important que ce qui se passait dans ces espaces-là soit connu à travers la RDC, à travers le monde. Donc, je dois saluer le travail des titans que les journalistes ont abattu, que toute l'administration de la radio a abattu. Et donc, joyeux anniversaire à tout le monde. Je crois que j'ai été le témoin privilégié au-delà de mes fonctions que j'ai occupées. Je crois que la radio Okapi a joué également un rôle important dans la formation de certains acteurs politiques qui ont été connus par la voix portée à travers la radio Okapi.
Monsieur le ministre, quels sont, selon vous, les facteurs qui ont contribué au succès du travail de radio Okapi?
D'abord, le premier facteur, c'est l'indépendance dans le traitement de ces informations, l'accessibilité à l'information partout où il s'est posé des problèmes, parce que je peux considérer la radio Okapi comme une radio qui était celle qui couvrait essentiellement les espaces de l'Est pour que on suive les espaces de guerre, de paix, de processus, de réconciliation. Et donc, l'accessibilité à l'information est un facteur important qui a fait de la radio Okapi une radio, je dirais, unique à son genre et spéciale dans le traitement des informations, parce qu'elle savait atteindre et les milliers de rébellions que les officiels ne savaient pas atteindre et les milliers officiels. Ainsi donc, on pouvait être en même temps au courant de ce qui se passait à l'intérieur des espaces qui étaient pratiquement inaccessibles, parce que la logistique des Nations Unies servait effectivement aux journalistes de la radio Okapi d'accéder à toutes les informations. Donc je crois que ça c'est un facteur important que moi j'ai pu voir à travers les espaces où j'étais. J'avais un certain nombre de pouvoirs. Mais également, je peux dire que un autre facteur qui a aidé, c'est la mobilité aussi, hein. La mobilité facile, la couverture par la MONUC à l'époque, ensuite la MONUSCO. Et donc, ces éléments-là ont vraiment aidé à ce que la population congolaise, la population entière, sente qu'elle est accompagnée par une radio qui disait la vérité là où peut-être il ne fallait pas le dire. Je me rappelle que moi-même, alors gouverneur, je pouvais, lorsque les gens savaient que j'interviendais à la radio Okapi, c'était presque toute la République qui était scotchée pour suivre quels sont les événements qui se déroulent au Nord Kivu. Donc, la radio Okapi a forgé une certaine conscience nationale, une attention particulière pour que les gens sachent exactement comment devait se terminer la guerre à l'Est. Et donc, pour moi, coup de chapeau à tous les animateurs, y compris vous-même. Je pense que votre émission, vous l'avez tirée effectivement du dialogue entre Congolais pour qu'elle devienne dialogue entre Congolais. Et je suis heureux d'être l'un des participants à beaucoup, beaucoup de ces émissions.
Monsieur le ministre, certains experts estiment qu'au temps de la partition du pays, Radio Okapi a joué un rôle de diplomate. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion?
Oui, diplomate, oui, parce que je peux le dire, là où le gouvernement ne pouvait pas peut-être traiter correctement l'information ou dire à la population ce qui pouvait se passer dans certains endroits, la radio Okapi a su le faire, mais également les contacts que certaines autorités des Nations Unies ou de la région pouvaient faire avec certains milieux, ces contacts ont été souvent révélé et connu à travers la radio Okapi. Et donc, c'est cet aspect-là de diplomatie, effectivement, que nous avons salué. Et je suis d'accord avec ceux qui pensent que la radio Okapi a joué un rôle de diplomatie parce qu'il a facilité, effectivement, les dialogues avec des acteurs qui ne pouvaient pas être accessibles par les milieux dits officiels. Et donc, ce rôle diplomatique que la radio Okapi a aidé et peut-être à connaître ce qui se passait dans les milieux où on estimait qu'il était impossible. Donc, je crois que c'est ceux qui l'ont dit ainsi, ils n'ont pas tort d'affirmer que la radio Okapi s'est également plongée dans une diplomatie active.
On vous garde encore dans cette émission, Monsieur le ministre, le temps pour nous de donner la parole à Walter Mulondi, qui est un ancien journaliste de Radio Okapi. Encore une fois, bonsoir Walter.
Bonsoir Kelly.
C'est un plaisir de te recevoir dans Dialogue en Congolais.
Plaisir partagé.
Walter, vous avez été le premier présentateur de l'émission Okapi Action à l'époque, aujourd'hui Okapi Service.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ces premiers reportages des Radio Okapi, de Micheline et de Franklin Moliba Sese sur les débuts des travaux à Sun City?
Ben, je dirais d'abord qu'avant de commencer à animer Okapi Action, j'avais présenté le premier journal en Swahili le 25 février 2002. Et donc, si je reviens sur ce que Micheline disait, qui était à Sun City et Franklin depuis Badolité, Micheline dit devrait, le dialogue devrait commencer. Elle parle au futur avec peu d'assurance. Et Franklin qui parle des désespoirs, avenir flou. Ça, c'était l'ambiance du matin. Même dans la zone Kinshasa, c'était la même chose. Alors, à 17h, lorsque nous présentons le journal Swahili avec j'étais au micro pour le journal Swahili et Bob Landou à la technique, nous avons la nouvelle qui tombe, que tout le monde est finalement autour de la table. Nous apportons la confirmation, on enlève le conditionnel de l'édition du matin, on apporte la précision et pour dire tous les acteurs sont finalement dans la salle et autour de la table, les dialogues peuvent commencer. Et les reportages qui ont suivi après, à contrario de ce qui s'était passé le matin, c'était des cris de joie aussi bien à Goma qu'à Badolité que dans la zone sous le contrôle du gouvernement. Donc là, on était soulagés nous-mêmes. On se disait, waouh, on est en train de participer à une belle histoire du Congo. On est en train de participer à tourner cette belle page où tout le monde pouvait y aller. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver Micheline Tshuala, de réattendre Franklin. Est-ce que disait le ministre Julien Paluku tout à l'heure par rapport au rôle des diplomates? Parce que c'est vrai, le dialogue s'est ouvert ce jour-là à Sun City, mais après, il y a eu toujours des blocages, chacun voulant bien sûr tirer la couverture de son côté. Et un jour, dans une émission DEC animée par Jérôme Gongo, les acteurs sont passés aux négociations à travers la radio. Et Jérôme avait posé une question pertinente pour dire, écoutez, ça bloque, il y a des gens qui ne sont plus dans la salle, qu'est-ce que vous, MLC, pouvez
allez proposer demain à la table de négociation pour que ça avance? Vous, RCD Goma, qu'allez-vous proposer? Vous, côté gouvernemental, qu'allez-vous proposer? Des questions directes. Et pendant l'émission, ils ont commencé à donner des propositions et ce sont ces propositions-là, le lendemain, effectivement, que les gens ont donné parce que Jérôme leur disait, attention, ne mentez pas parce que les auditeurs vous écoutent. Si vous allez dire ou présenter quelque chose de différent demain sur la table de négociation, eh bien, vous attirez les conséquences politiques. Et effectivement, Kelly, c'est ce qui a été dit et ça a débloqué. Voilà, aussi, c'est, ça dénoue une chose, c'est ce rôle.
C'est un exemple concret.
Concret, que j'apporte ouais, ici un témoignage.
Radio Capi, voilà.
Pendant les négociations, pendant les débats, avant la reprise des discussions, les acteurs ont débattu, ont mis les propositions sur la table grâce à des journalistes qui posent les bonnes questions. Voilà la fierté d'être journaliste, facilitateur, la charnière pour aller dans ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le journalisme de solution finalement quand ça bloque.
Est-ce que vous pensez que le travail de Radio Capi a impacté sur le processus politique de la RDC, à part les travaux des Sun City? On a eu les référendums, les élections de 2006, 2011, 2018. Vous pensez que Radio Capi a joué un rôle important dans ce processus?
Bien sûr, et je prendrai pour exemple le fait que qu'on retrouve des extraits d'il y a 20 ans, c'est intéressant. Il faut savoir que nos médias, pour la plupart au Congo, pour la plupart n'ont pas la culture des archives. Au point que on peut interviewer une personnalité politique aujourd'hui, et après 10 jours, elle vous dit le contenu de ce que vous avez dit, elle peut vous mener à bateau. Alors que pour Radio Okapi, dans certaines émissions fortes, où parfois ça pouvait bloquer, on peut ressortir un extrait de tel ministre, admettons Julien Paluku, du temps qu'il était gouverneur, il intervient dans une émission, on peut lui ressortir un extrait d'une promesse qu'il a donnée, d'une déclaration qu'il a faite 5 ans après, et face à cette dictature des faits, la personne va être obligée de respecter la parole donnée d'il y a 5 ans. Et donc, on l'oblige à rester droit dans ses bottes, à moins de se dédire. Or, un acteur politique qui se dédie, qui revient sur ses paroles, commence à perdre sa crédibilité et sa personnalité, voire son leadership par rapport aussi bien aux gens de son parti qu'à des personnes qui peuvent les suivre. Mais oui, je le réaffirme, on a joué ce rôle par devoir de mémoire. Nous avons les archives, et ces archives sont une force, parce que ce sont les faits. Et c'est d'ailleurs pour cela que Albert Camus dit du journaliste que c'est un historien du présent. On ne peut pas tromper l'histoire. L'histoire est têtue, et quand on remet sur la table les faits, eh bien, ils sont indéniables. Et donc, bientôt, 2023, il y a des personnes qui vont revenir devant les électeurs, qui vont revenir dans cette émission ou dans d'autres, on leur remettra les promesses données il y a en 2018 pour dire vous aviez promis ceci, où est-ce que vous en êtes? Vous aviez promis ceci, où est-ce que vous en êtes? C'est le rôle qu'on donne aux médias, aux journalistes de watchdog, le chien de garde de la démocratie.
Alors Walter, vous pensez que l'objectif de la création de Radio Okapi a été atteint? Le pourquoi de sa création, le pourquoi on a créé Radio Okapi, est-ce que l'objectif a été atteint?
Bien
20
sûr,
ans après.
Bien sûr, 20 ans après. Même le jour, déjà le 25, l'objectif était atteint. Lorsqu'il y a eu des cris de joie, il y a un auditeur qui l'a dit. Nous avons réunifié électroniquement la République démocratique du Congo avec une réunification concrète qui a abouti plus tard à la formule 1 plus 4. Voilà. Et puis tout le monde était là. J'ai eu à effectuer certaines missions avec Thierry Michel lorsqu'il produisait Congo River. On traversait les zones sous contrôle anciennement rebelle. C'était pas toujours facile. Mais le pays était déjà réunifié par la magie de la radio. Ça, c'est un. Deux, le dialogue a eu lieu, il y a eu des accords, il y a eu des textes, mais aujourd'hui, après, tout ceci, c'est la succession de cela. Il y a eu des élections. Combien de cycles électoraux déjà?
3 cycles.
3 cycles, bientôt un 4e. Voilà, cet objectif est atteint sur le plan politique. Sur le plan économique, bien sûr, la radio à travers toutes ces émissions a ouvert les oreilles des auditeurs sur des réalités qu'on ne connaissait pas. Je me souviens un jour, dans une émission au Capi Action, en revenant du tournage de Congo River, j'avais le ministre Ndundo qui était à l'époque en charge des transports. On parlait du fleuve Congo qui n'était pas balisé. Alors il commençait à nous dire à l'antenne que c'est balisé, c'est ceci, cela. Alors moi, je revenais du terrain
avec des éléments qu'il y a des bancs de sable, où sont les des machines pour désensabler le fleuve, etc., etc. Le ministre était confronté au fait, au point que il a dû prendre des actions plus tard. Malheureusement, le même jour, il avait eu une motion au Parlement, il avait été limogé plus tard. Parce qu'on le confrontait justement aux faits. C'est ça le rôle du journaliste.
Merci Walter. Professeur Pierre Nsana, professeur en journalisme, vous êtes auteur du livre intitulé « Médias et conflits en RDC, des journalistes en danger, le journalisme en chantier » publié aux éditions L'Armatan. Professeur, que pensez-vous du travail de Radio Okapi 20 ans après?
Merci, bon, une fois de plus, de m'avoir associé à ce débat. Je pense que, comme ont dit mes prédécesseurs, Radio Okapi a réalisé un travail formidable, remarquable, ce qui justifie qu'on commémore les 20 années d'existence de cette radio aujourd'hui. Mais je pense que cette action peut être évaluée en essayant de différencier cette importance selon les périodes. Si on revient effectivement dans le contexte de 2002, on va se rendre compte que la radio a été un outil en ce moment-là irremplaçable dans la réunification du pays. Là, ici, je vais peut-être évoquer l'histoire même du média radiophonique pour dire ici que c'est déjà ce rôle que la radio a joué pendant la période coloniale. Lorsqu'on révisite l'histoire de ce média magnifique, on se rend compte que la construction de l'identité congolaise, de l'identité nationale, peut aussi être attribuée à la radio, parce que au moment où, sous la colonisation, les infrastructures n'étaient pas très développées, finalement, les ondes radiophoniques ont été le principal élément que les différentes composantes de la société congolaise avaient en partage. C'est grâce à la magie de la radio que l'auditeur de Kasumbalesa ou celui de Gemena pouvait écouter le même contenu, partager la même histoire, et évidemment, au moment de l'indépendance, même après, cela a pu consolider ce lien qui existait et qui a permis que les frontières qui étaient arrêtées de manière arbitraire ne soient jamais remises en cause, parce que toutes les populations, où qu'ils soient, ils ont pendant longtemps partagé au moins les mêmes contenus radiophoniques. Et ça, c'est un atout, c'est un résultat qu'on peut attribuer à la radio, qui malheureusement, pendant les régimes qui se sont poursuivis après, la radio a connu une crise qui a permis que la couverture nationale ne soit plus réelle. Donc nous avions eu plusieurs radios en 2002, mais il n'y en avait aucune qui assurait une couverture véritablement nationale. On avait plutôt à la place des petites radios qui produisaient une information de manière parcellisée. Et aujourd'hui, à partir de 2002, Radio Okapi est revenu remettre des ondes véritablement nationales en proposant une couverture à l'échelle de l'étendue de 2 450 000 km², de telle sorte que ça soit au niveau de la diffusion, mais aussi au niveau de la collecte. Et ici, le ministre Palou le disait avec pertinence, que la radio a assuré un pluralisme qui permettait aux différentes sources d'information de s'exprimer et aux différents auditeurs de participer aussi à la production de l'information. C'est ce qui a permis à la radio effectivement de diffuser toutes les voix et aux citoyens de se reconnaître dans cette radio et grâce à elle de se reconnaître comme les membres d'une même communauté nationale.
Alors, entre 2006 et 2018, vous pensez que la radio a impacté sur le processus politique en RDC?
Ah, effectivement, mais je pense que cette importance peut être différemment appréciée selon aussi l'évolution de l'histoire du pays. Pendant les périodes de crise, cette importance est encore plus déterminante que lors des périodes moins agitées. Effectivement, aujourd'hui, depuis 2016 ou 2017, avec maintenant la montée d'Internet, voilà, il y a de plus en plus de radios qui arrivent à élargir leur diffusion et qui font aujourd'hui concurrence à votre radio. On dépêche que votre rôle continue à être important, mais pas de la même manière que cela a été en 2002 où elle était effectivement la seule voix véritablement nationale.
Peut-on dire, professeur Pierre Nsana, que la radio, de façon générale, hein, la radio est un média puissant par rapport aux autres médias? Je vois la télé, les médias en ligne, les journaux.
Effectivement, aujourd'hui, toutes les études montrent qu'il n'y a aucun média qui est d'abord arrivé à détrôner la radio en Afrique de manière générale, mais particulièrement au Congo, où la radio a encore 62% de part de marché sur le plan de l'accessibilité. Donc la radio dépasse de loin tous les autres médias. Et la magie de la radio, c'est qu'avec l'expansion d'Internet, la radio multiplie ses formes de production ou de réception. Aujourd'hui, on peut recevoir la radio à travers le téléphone, c'est ce que je fais en ce moment. Ce que je fais en ce moment, sur toutes les plateformes numériques, tous les smartphones, les tablettes, la radio est présente. Donc, loin de diminuer son ampleur, au contraire, les nouveaux médias viennent renforcer la présence de la radio. Aujourd'hui, on parle même de la radio filmée, la radio augmentée, tout c'est ça. Ce sont des variantes de radio qui montrent que ces médias ont encore de l'avenir à travers le monde.
Monsieur le ministre, on revient vers vous. Il y a cet auditeur, Twambe depuis Bunia dans la province de l'Ituri, qui dit ceci: certes, ce média a impacté positivement sur la situation sécuritaire de notre pays, les perspectives d'avenir et que nous demandons l'élargissement du temps pour l'émission Dialogue en Congolais. Malgré le départ de la MONUSCO, la radio doit rester être à la disposition des agences de l'ONU. Alors parlons de la situation sécuritaire. Vous avez été gouverneur dans une province en proie à l'insécurité qui a connu beaucoup de rébellions, beaucoup des groupes armés qui insécurisent cette province. Pensez-vous que Radio Okapi a aidé, par exemple, la province du Nord Kivu dans sa pacification, même si elle n'est pas encore totale aujourd'hui, avec la présence de certains groupes armés qui continuent encore à semer l'insécurité?
Oui, merci madame. Moi, je pense que d'ailleurs, à un moment donné, on disait que la radio Okapi est une radio de la guerre, c'est-à-dire parce qu'elle couvrait essentiellement l'actualité qui se passait à l'est de la République démocratique du Congo, même s'ils avaient tort de le dire ainsi. C'était pour tout simplement signifier que la radio a accompagné tous les processus de paix, a accompagné tous les efforts du gouvernement de manière à ce que les uns et les autres pouvaient savoir ce qui se passait. C'est ainsi personnellement, par exemple, que je dois être sincère, partout où je suis passé dans les provinces, les gens, quand ils apprenaient que c'était Julien Paluku, ils avaient tendance à savoir si c'est réellement moi, parce qu'ils me suivaient régulièrement sur la radio Okapi à travers les émissions de dialogue entre Congolais. Donc je crois que au-delà de la contribution que Radio Okapi a pu apporter pour la construction de la paix à l'est de la RDC, Radio Okapi a également aidé les acteurs politiques à se faire connaître, mais également Radio Okapi a permis à la société civile et aux acteurs non étatiques d'affronter les officiels. Imaginez-vous, dans les débats que nous avons eus, nous avons été plusieurs fois contredits par des gens, ce qui n'était pas le cas. L'autorité, c'était comme un mythe, mais la Radio Okapi a aidé, entre guillemets, à démystifier les autorités à travers les débats que nous avons eus à organiser avec les jeunes, avec les jeunes de la société civile, qui avait un autre son de cloche par rapport à nous, les officiels. Et de ces débats-là sortait effectivement une nouvelle orientation que nous devrions donner à nos actions. Donc je suis sincère en disant effectivement que la radio Okapi a aidé beaucoup, parce qu'à chaque fois que j'ai finissé, par exemple, une émission de dialogue entre Congolais, parce que j'ai noté régulièrement toutes les observations faites, ça me permettait d'orienter ce que je devais faire quand je présidais, par exemple, le comité provincial de sécurité pour dire: attention, le peuple pense ceci. Nous pensons que nous sommes dans les bons, mais voici ce que pense le peuple. Hier, j'étais harcelé, si je peux le dire, à la radio Okapi sur telle question. Donc je pense que la radio Okapi, sur ce point-là, en faisant parler les acteurs étatiques et non étatiques dans un débat, ça a aidé à pouvoir orienter certaines actions des acteurs politiques et des acteurs étatiques de manière à permettre à ce qu'on approche ou on atteigne la paix, même si la paix n'est pas encore devenue sur l'ensemble de la partie est de la RDC. Mais je dois avouer que la radio Okapi a aidé à accompagner le processus, à connaître ce qui se passe, à définir les options, à proposer même des pistes de solutions au gouvernement. Et nous avons eu à explorer beaucoup de pistes de solutions qui nous étaient proposées à travers les différents débats organisés à la radio Okapi.
Alors on va prendre ces nombreux auditeurs qui nous appellent sur notre standard, Walter. Nous l'ont dit, on va prendre pour vous cet auditeur qui s'appelle Antoine.
Antoine Lombo, Bolenza depuis la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Je salue le travail qu'a accompli la radio Okapi en République démocratique du Congo pour les moments durs de turbulences, notamment politiques et sécuritaires. La radio Okapi, pendant que la population congolaise était à la quête des cadres pour contribuer ses idées pour le bien-être du peuple congolais, elle a offert un espace de dialogue entre Congolais. Une manière pour elle d'accomplir l'essence de sa mission, à savoir la promotion du peuple congolais. Sur le plan sécuritaire, la radio Okapi a fortement contribué à des initiatives culturelles, véhiculant les messages pour la paix par les fils du terroir. Bref, la radio Okapi a aidé le Congo dans le processus de la paix surtout à l'espace F. Pour l'avenir, je demanderai un peu de perspicace et de vérification avant la diffusion d'autres informations. Et la radio Okapi initie les concours des jeunes dans les rédactions et reportages en vue de penser à une relève compétente. Joyeux anniversaire à la radio Okapi.
Walter, qu'est-ce que vous pensez du point de vue d'Antoine qui nous a appelé depuis Kisangani?
Antoine, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent la Tchopo. Merci pour cette analyse correcte et honnête. Il reconnaît le travail abattu sur le plan culturel. Notamment, on pense à nos émissions comme Okapi Métissage. Bon, concours des jeunes, c'est bien de promouvoir cela. Mais il nous fait une remarque, il nous dit qu'il faut continuer à fournir des efforts pour vérifier l'information avant diffusion.
Exactement.
C'est très important. Ça veut dire que oui, on a abattu un grand travail à Radio Okapi, mais il faut toujours continuer à se remettre en question. On n'est jamais arrivé. Chaque jour est une vie, travailleuse à la beauté des choses, disait un célèbre journaliste de RFI, Laurent Sardou. On doit continuer à se remettre à cause pour continuer à offrir à nos auditeurs des informations de qualité qu'ils ont toujours apprécié. Il ne faut pas que après autant d'années que nous puissions tomber bas. Parce que c'est vrai, à l'époque, nous avons bénéficié du fait que l'espace médiatique n'était pas aussi saturé qu'aujourd'hui. 20 ans après, il y a de nouveaux médias, il y a des jeunes qui nous observent. Parce que l'impact des radios Okapi, c'est que nous avons impacté sur le plan éditorial les autres médias. Il y a des médias qui ont copié le modèle Okapi sur le plan éditorial et qui font la même chose. Alors si ces médias sont plus proches dans une zone donnée, par exemple dans la Tchopo, elles peuvent nous battre sur le plan audience dans cette zone. Si c'est dans le Bas-Congo, si c'est à Kananga, si c'est à Lubumbashi, ces radios peuvent nous battre aujourd'hui parce que même à Kinshasa, elles peuvent nous battre si elles assimilent mieux que nous notre propre modèle que nous avons créé et à partir duquel ces radios se sont inspirées. Pour la relève, bien sûr, vous suivez probablement, j'espère que ça arrive bientôt à Kisangani, Bana Okapi.
Exactement, qui est sur le chantier. La nouvelle, voilà, qui a déjà commencé à émettre.
Qui a déjà commencé à émettre. Ça, c'est un nouveau modèle éditorial, mais aussi un nouveau modèle économique. Parce que Bana Okapi, c'est avec un partenariat, une UNICEF et UNOPS qui interviennent là-dedans, ce qui est très bien. Oui, cher Antoine, Radio Okapi veut pérenniser, veut promouvoir les jeunes. J'ai rencontré un jeune journaliste de Radio Okapi de 24 ans qui anime l'émission. Il s'appelle Grace, par exemple. Il est très jeune, Grace. Et d'autres qui sont dans Bana Okapi sont très, très, très jeunes. Ce qui veut dire que la relève est là. Eh ben, continuez à écouter, à copier ce modèle Radio Okapi, parce que c'est ça la vraie pérennisation. On n'a pas forcément besoin d'une Radio Okapi qui se pérennise, mais des modèles typiques qui ressemblent à des Okapi qui pullulent à travers la République. Ce sera ça une réappropriation de ce projet, parce qu'un jour, la MONUSCO partira.
Professeur Pierre Sana, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
J'ignore Bompongo à partir de la ville-province de Kinshasa. L'impact du travail de la radio Okapi sur le processus démocratique et sécuritaire de la RDC n'est pas à démontrer. Car du haut de ses cendres, elle joue un rôle très capital, non seulement dans le traitement et diffusion de l'information qualitative, mais contribue aussi à l'éducation des masses pour le processus politique et sécuritaire à travers ses différentes émissions. N'en déplaise qu'elle demeure à jamais, car cette radio donne aussi la parole à des personnes sans voix, de s'exprimer en toute liberté d'expression, ce qui justifie d'ailleurs l'épithète lui collée des révolutionnaires. Au moins, je préconise que cette radio soit pérenne, même si la MONUSCO quitte les territoires congolais et qu'un jour, elle ait son propre chaîne de télévision. Je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à tous les staff de la radio Okapi et un très bon nouveau départ car le meilleur reste à venir. Car bien même que cette chaîne d'information n'a rien à prouver par soi de son travail de titan.
Alors, professeur Pierre, ça n'a juste une brève réaction sur ce que pense Junior Bompongo du travail de Radio Capi. Juste après, on va parler des perspectives pour ces médias.
Et évidemment, la réaction m'oriente déjà vers les perspectives parce que son souhait est que la radio demeure à jamais. Pour lui, il exprime les avis d'un auditeur, sa satisfaction sur le contenu diffusé par la radio. Je pense que c'est aussi l'avis de la majorité, donc je n'ai pas de jugement à émettre sur ce qu'il dit, mais reste cette problématique qu'on pourra peut-être évoquer, des moyens, car derrière la production de cette qualité d'information que chacun apprécie, il y a évidemment beaucoup de moyens qui sont mobilisés et va rester cette équation où trouver les moyens pour pérenniser cette expérience.
Professeur Sana, quelles pourraient être les perspectives pour ce média? La MONUSCO quittera un jour la RDC. Est-ce que ce média doit demeurer, doit continuer?
Alors, moi, je vais peut-être vous choquer. Je crois que l'idéal aurait été que la radio disparaisse avec la mission des Nations Unies dans son format actuel. Alors, compte tenu de l'importance que les auditeurs évoquent ici, l'autre hypothèse serait de mettre en place un consortium de la société civile qui pourrait gérer cette radio avec l'aide des bailleurs de fonds présents. Voilà. Mais je propose que cette radio soit fortement décentralisée, que les antennes provinciales soient plus autonomes par rapport à l'antenne nationale et que ces antennes, les bureaux régionaux de la radio, puissent se mettre d'accord pour contribuer au fonctionnement d'une antenne nationale auprès de laquelle les bureaux provinciaux enverraient des contenus. Sinon, garder cette radio avec plus de 10 millions de dollars de budget annuel, je ne sais pas qui va accepter de mettre les moyens sans tenter d'influencer la ligne éditoriale.
Julien Paloukou, Monsieur le Ministre, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Chikapa, dans la province du Kasaï.
Je suis Kangombe Pierre Chemé dans la province du Kasaï-Chikapa. En premier lieu, je félicite tout le personnel de la radio Okapi pour leur travail dans les moments difficiles et critiques en servant le peuple congolais particulièrement. Je dis bravo à cette radio parce que dans tous les temps, nous sommes connectés avec tout ce qui se passe à l'est du pays et partout en RDC. Que Dieu protège la radio Okapi car sans elle, la connexion en matière médiatique ne sera pas absolue entre le peuple congolais et ses frontières qui lui composent.
Alors cet auditeur revient un peu sur ce que vous avez tous dit hein, autour de cette table, que ce soit le ministre, que ce soit le professeur Pierre Sana, que ce soit Walter. Mais monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Radio Okapi?
Oui, assure les auditeurs et ma conviction aussi. Je ne pense pas que la télévision Okapi soit une priorité. Si la radio Okapi est efficace, c'est parce qu'elle n'est pas une télévision. Parce que nous avons beaucoup de télévisions qui ne savent pas atteindre effectivement les peuples congolais avec tous les déficits énergétiques que nous connaissons. Aujourd'hui, donc, moi, dans ma perspective, je pense qu'il faudrait qu'au niveau des Nations Unies, on pense à une chose, c'est-à-dire créer, par exemple, un compte séquestre sur les budgets des Nations Unies aujourd'hui, pour que le jour où les Nations Unies vont devoir quitter la RDC sous le format MONUSCO, que le compte séquestre soit alimenté par une enveloppe qui pourrait assurer une survie de 5 à 10 ans à la radio Okapi, en attendant que la radio Okapi définisse elle-même la source de ses moyens.
Alors, je vais juste vous compléter, vous donner une information peut-être qui vous échappe, monsieur. Monsieur le ministre, la résolution 2612 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité, dans sa résolution, à l'article 52, le Conseil reconnaît le rôle joué par Radio Okapi, le Conseil des mondes à la MONUSCO et aux partenaires concernés d'étudier les options disponibles pour maintenir la programmation de Radio Okapi dans le contexte de la transition de la MONUSCO.
Voilà, moi je suis maintenant plus pragmatique dans la définition de ces options-là. C'est-à-dire créer un compte séquestré au niveau du budget actuel pour lui assurer une survie sur les 10, les 15 ans à venir. Mais également, la deuxième proposition, c'est que comme la radio Okapi est disséminée partout à travers la République et qu'elle aille à suivre de très près les questions sécuritaires, si elle peut avoir beaucoup plus d'émissions maintenant dans les questions de développement, de l'économie, pour essayer un peu de relever tous les facteurs qui ne marchent pas à l'intérieur de la République, c'est pour pourrait, comme cela a été pour les dossiers sécuritaires, réveiller l'autorité publique sur des questions économiques et de développement qui pourraient être la base, effectivement, de la satisfaction des besoins de la population. Donc, ce sont là les deux propositions que j'ai formées pour l'avenir de la radio Okapi, à laquelle nous souhaitons longue vie au-delà du mandat de la MONUSCO pour que nous continuions à bénéficier des belles émissions de cette radio qui est une radio de proximité, qui est une radio qui est vraiment appréciée par tout le monde de par ces différentes émissions qui touchent le vécu quotidien de la population. Mais orienter aujourd'hui ces émissions vers des questions de développement, des questions économiques, susciterait de l'intérêt dans les chefs des dirigeants de s'occuper de ces questions parce que ce n'est pas toujours le cas.
Merci, monsieur le ministre Julien Paloukou. On va considérer cela comme votre conclusion. Walter, d'abord, qu'est-ce que vous pensez des propositions du ministre et du professeur Pierre Sana lorsqu'il dit, moi je pense que si ça ne dépendait que de moi, dès que la MONUSCO est partie, on ferme Radio Capi.
Écoutez, le prof a dit la vérité et c'est une vérité qui ne doit pas faire peur. Figurez-vous que je ne suis pas contre ce qu'il dit parce que c'est important de partir sur un modèle économique nouveau. Le modèle éditorial de Radio Capi est correct, il n'y a rien à redire, mais sur le modèle économique, il faudra remplacer la masse budgétaire qu'apporte la MONUSCO. Les billets d'avion, les reporters, tous les équipements, c'est un budget énorme. Il faudra donc penser, heureusement que le Conseil de sécurité a souligné cela, à trouver un modèle économique qui va répondre après à la fois combien de staff il faudra avoir, combien de stations devront être alimentées, quel contenu éditorial. Je rebondis sur ce que le ministre Julien Paloukou disait en parlant de questions économiques et développement. Moi, j'irai tout de suite dans un concept états-unien et des États du monde, les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable. C'était une question de ma maîtrise à l'école supérieure de journalisme de Lille, comment la radio peut y aller, et ces objectifs 17 comprennent tout cela. Il faudra que l'État congolais puisse avoir une législation qui facilite cette transition, parce que la nouvelle identité juridique des radios Okapi, est-ce que ça va être une radio commerciale, une radio communautaire? Il faudra que actuellement les dirigeants de la radio et les staffs s'asseyent pour dire on fait une évaluation et on se projette dans le futur pour penser redéfinir un nouveau modèle économique de la radio après Okapi. Elle pourrait continuer à s'appeler Okapi, mais le modèle éditorial devra s'adapter aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030. C'est ce qui fait vendre pour aller chercher, faire un business plan clair, trouver les partenaires économiques, trouver les même des actionnaires qui peuvent venir mettre leur argent là-dedans. Et dans un monde économique, il n'y a pas d'action sans intérêt. Il faudra trouver tout cela, imaginer, réimaginer une nouvelle radio qui doit être forcément compétitive. Parce que les autres radios nous écoutent, les autres médias sont là, ils ne vont pas laisser la part belle à Radio Okapi. Je ne vais pas mentir en disant que lorsqu'il y a eu, par exemple, dernièrement les états généraux de la communication, il y a eu des paragraphes qui étaient orientés contre le visage actuel de Radio Okapi. Ça veut dire que ça doit nous faire réfléchir, nous, anciens de Radio Okapi, et les dirigeants actuels de Radio Okapi, pour penser un nouveau modèle économique qui va être compétitif dans le marché économique. Et puisqu'il y a les zones d'économie spéciale et tout, que chapeaute monsieur le ministre de l'Industrie, on va entrer dans une approche de radio-entreprise, radio-industrie. Et j'espère que le ministre, qui tient beaucoup aussi à Radio Okapi, pourra faciliter Okapi à jeter les jalons d'un nouveau modèle économique qui pourra se développer.
Merci Walter Moulondi, ancien journaliste des Radio Okapi. Professeur Pierre Sala, ça sera votre conclusion lors de la célébration des 20 ans de Radio Okapi. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement a souhaité que le gouvernement, après le départ de la MONUSCO, puisse récupérer cet instrument, mais en lui laissant son indépendance éditoriale. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une bonne idée?
Non, mais je crois que le gouvernement a la gestion, la mainmise totale sur la RTNC. Pourquoi il veut récupérer une autre radio? Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Si le gouvernement de bonne foi, il peut, à la limite, mettre les structures, aider la société civile à s'organiser pour récupérer cet outil. Par exemple, le gouvernement, aujourd'hui, au terme de la loi, est le propriétaire de la RTNC. Donc, je crois qu'on doit laisser cette initiative se perpétuer si on trouve les moyens, ou simplement avoir le courage de démembrer cette radio ou de la fermer pour qu'on puisse en garder le meilleur souvenir possible.
Merci professeur Pierre Sana. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Dona Madimba sous la supervision de Martin Segoujangwe. Merci à Willem Lungamba qui est à la mise en onde, présentation et coordination Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.